Deutsche Welle. Droits et libertés.
Il y a 70 ans, se formaient l'Inde et le Pakistan, deux États indépendants. Dans ce magazine, nous allons revenir sur le processus de séparation des Indes britanniques et tenter de comprendre pourquoi ces deux pays sont aujourd'hui encore de grands rivaux. Et ensuite, nous nous pencherons sur les affaires florissantes des passeurs de migrants en Libye. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
Sonne, minuit sonne. Tandis que le monde dort, l'Inde va s'éveiller à la vie et à la liberté. Nous vivons un moment rare dans l'histoire. Nous laissons le passé derrière nous pour entrer dans une nouvelle ère. Et l'âme d'une nation longtemps réprimée peut enfin s'exprimer.
Bon, d'accord, le ton est empli de pathos, mais le moment est effectivement historique. Les propos que vous venez d'entendre ont été tenus dans la nuit du 14 au 15 août 1947 par Jawaharlal Nehru, Premier ministre qui proclame l'indépendance de l'Inde. Certes, cette indépendance de la puissance coloniale britannique a été acquise de haute lutte et une partie de la population la salue avec un soulagement énorme, mais cette indépendance est concomitante avec une partition douloureuse, celle de l'Inde et du Pakistan. 7 à 8 millions de personnes quittent alors leur pays, l'Inde, dans des conditions extrêmement difficiles pour gagner le Pakistan. Et un nombre à peu près équivalent de Pakistanais s'exilent en Inde. Des affrontements interreligieux font des centaines de milliers de morts. Alors comment en est-on arrivé là? La prise de conscience des musulmans d'Inde a commencé au 19e siècle et a abouti à l'idée qu'il fallait que les musulmans créent leur propre État suite aux tensions exacerbées par le colon britannique avec les hindous, population majoritaire au sein de laquelle émerge un sentiment nationaliste. Mais n'allons pas trop vite. La figure de proue du mouvement indépendantiste indien, c'est bien sûr cet homme devenu icône du pacifisme, le Mahatma Gandhi. Il rêvait d'une Inde indépendante, certes, mais unie, et il ne cache pas sa déception de voir son idéal détruit en partie.
Nous avons fourni tellement d'efforts, nous nous sommes tellement investis dans la résistance non violente. Tout ça pour tomber de Karib en Silla, ce n'est pas bon. Peu importe que nous croyons au même Dieu, nous sommes tous des frères et des frères doivent s'embrasser.
La lutte de Gandhi s'oppose à la théorie des deux nations. Au contraire, elle s'articule autour d'une Inde unie, au-dessus des différences religieuses, et elle prône la non-violence, y compris d'ailleurs envers les colons britanniques. Mais la rivalité entre musulmans et hindous remonte à loin. La première fois que le nationalisme indien se manifeste au grand jour, c'est en février 1885 à Bombay, quand le Congrès national indien, appelé Congrès, voit le jour. C'est là qu'apparaissent les figures de Nehru, futur Premier ministre de l'Inde donc, et de Gandhi. Sur 73 délégués présents à la réunion inaugurale, 54 étaient hindous et seulement 2 musulmans. Étant donné ce déséquilibre dans la représentation des groupes de population, les musulmans commencent à exiger des droits spécifiques et des règles qui leur soient plus favorables pour mieux défendre leurs propres intérêts. Ils créent la Ligue musulmane en 1906. Dans les années 1930, la dissociation entre les deux communautés est telle qu'émerge la théorie des deux nations. Elle revendique la création d'un État pour les musulmans de l'Inde. C'est à cette époque que naît l'appellation Pakistan, inventée par des étudiants musulmans en Angleterre. Il s'agit de l'acronyme de plusieurs provinces, c'est-à-dire que ce terme de Pakistan est inventé ou formé à partir du nom de plusieurs États, le Pendjab, l'Afghania, le Cachemire, le Sindh et le Baloutchistan. Pakistan signifiant « pays des purs ». Pendant les années qui suivent, la Ligue musulmane dirigée par Ali Jinnah et le Congrès conduit par Gandhi tentent plusieurs fois de se rapprocher, en vain. Une anecdote du début de la Seconde Guerre mondiale illustre d'ailleurs bien leur rapport compliqué.
En 1940, les membres du Congrès issus des provinces indiennes démissionnent en bloc. Ils protestent ainsi contre la déclaration de guerre faite par l'Inde à l'Allemagne, une décision prise unilatéralement par le colon britannique sans consulter les Indiens. Ali Jinnah appelle, lui, à une journée de la reconnaissance pour dire merci aux Britanniques.
6 ans plus tard, en 1946, la demande d'Ali Jinnah pour un État séparé des hindous se fait plus pressante encore. En août, il organise une journée d'action qui dégénère à Calcutta et les émeutes qui en résultent se soldent par plus de 10 000 morts. La théorie des deux nations conduit en 1947 à ce que deux États indépendants soient créés, donc là où existait auparavant l'Empire britannique des Indes. L'Inde se constitue en État laïque, elle occupe la majeure partie de l'ex-colonie dont elle reprend l'appareil gouvernemental et administratif. Le Pakistan, lui, se dote tout de suite d'une identité religieuse. Le plan Mountbatten, du nom de l'émissaire britannique chargé de régler les modalités de l'indépendance puis de la partition de l'Empire, l'Empire des Indes laisse la liberté aux dirigeants locaux des grandes provinces de choisir entre rallier le Pakistan, l'Union indienne ou devenir indépendant, à la condition que les plus petits États enclavés suivent ce choix. Le Pendjab et le Bengale sont ainsi divisés et appartiennent encore aujourd'hui en partie à l'Inde, en partie au Pakistan ou au Bangladesh. Ces bouleversements géopolitiques au moment des indépendances provoquent les gigantesques mouvements de population dont je vous parlais en début d'émission, des migrations sur fond de violences intercommunautaires qui font près de 200 000 morts. Ali Jinnah, le premier dirigeant du Pakistan indépendant, formule ainsi son objectif, je cite « Nous voulons propager la paix à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Nous voulons vivre dans une relation d'amitié cordiale avec nos voisins comme avec le reste du monde. » On l'écoute.
Our object should be peace within and peace without. We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large.
On sait que ce sera loin d'être le cas dans les décennies suivantes. Aujourd'hui encore, le Cachemire reste une pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan. Ces tensions qui perdurent remontent à cette époque de la partition. La majorité de la population du Cachemire est musulmane, mais le Maharaja est hindou. Il ne parvient pas à conserver l'autonomie de son État. La population se soulève contre son autoritarisme. Des combattants claniques du Pakistan appellent au djihad au Cachemire, poussant le Maharaja à fuir à New Delhi. Là, le dirigeant promet de rallier l'Inde en échange de sa protection militaire. Nous sommes fin octobre 1947. Et alors, les deux armées, indienne et pakistanaise, interviennent au Cachemire et les combats se commuent en véritable guerre. La première guerre indo-pakistanaise qui se termine sous médiation onusienne par une partition de la province du Cachemire, suivant une ligne de cessez-le-feu appelée ligne de contrôle. Cette ligne fait office de frontière officieuse, mais en 2017, elle n'est toujours reconnue par aucun des deux États.
You have some leakage on the boat. The water was flowing there inside.
Notre embarcation s'est trouée et l'eau rentrait à l'intérieur. Nous avons essayé d'écoper, mais nous ne sommes pas arrivés. Beaucoup d'entre nous étaient à bout de force et se sont mis à tomber à l'eau, à couler. D'autres flottaient, morts à la surface, le visage est tourné vers l'eau.
Ce migrant nigérian parle de son calvaire, les larmes aux yeux. Ils étaient près de 160 migrants sur le même canot, dont plusieurs enfants. Des sauveteurs de l'organisation Proactiva Open Arms ont réussi à leur venir en aide au large des côtes libyennes. Quelques survivants grelottaient à bord, entourés de 13 cadavres. Les milices qui détiennent le pouvoir de fait en Libye laissent les réseaux de passeurs proliférer et même prospérer, surtout dans le sud du pays, en plein Sahara. À 22 ans, Rejoice, une Nigériane, a été conduite dans cette région par des passeurs.
I left Nigeria August because of the crisis in Nigeria. Across the desert.
Nous avons traversé le désert à bord d'un camion. Certains sont tombés du camion, beaucoup sont morts. Nous étions 26 en partant. Mais quand quelqu'un tombait sur la route, on le laissait là. C'était tant pis pour lui. Les chauffeurs continuaient leur route sans s'arrêter.
When they died, they drive off, they continue.
La quasi-totalité de l'économie dans le sud de la Libye repose sur les trafics en tout genre, dont celui des êtres humains. D'après l'Organisation internationale pour la migration, près de 94 000 personnes ont tenté de gagner l'Italie en passant par la Libye puis par la mer depuis le début de cette année. Plus de 2 200 personnes sont mortes durant cette traversée, des chiffres équivalents à ceux de 2016 à la même époque, d'après Joel Millman, il est porte-parole de l'OIM.
What the significant difference, I think, is
ce qui est nouveau, c'est que les gardes-côtes libyens sont beaucoup plus actifs qu'en 2016. Cette année, ils ont intercepté 11 000 réfugiés en Méditerranée qui se trouvaient encore dans leurs eaux territoriales.
Le nombre de migrants qui meurent sur terre, c'est-à-dire avant même d'atteindre les côtes, celui-là, personne ne le connaît.
On estime à 1 million le nombre d'étrangers actuellement en Libye, mais parmi eux, il n'y en a peut-être que 200 000 qui sont venus dans l'intention de se rendre en Europe en canot.
By the total number, we think could be in the range for getting on boats. That's around 200,000.
Les Nations Unies désignent les endroits où les trafiquants de migrants parquent leurs clients de fermes humaines. Les femmes y sont quasi systématiquement violées ou contraintes à la prostitution.
Les passeurs kidnappent même des gens qui ne veulent pas aller en Europe. Ils font chanter leurs proches pour leur arracher une rançon et obligent ensuite leurs otages à partir en Italie par bateau.
Ce commerce odieux rapporterait jusqu'à 1,5 milliard de dollars à ceux qui s'y livrent sans scrupules en Libye, d'après une estimation de l'ONG International Crisis Group.
It was when they died. I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Maiduguri, I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Hans Spross et Jürgen Strujak pour les sons. Pour nous écrire, français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.
J'ai marché jusqu'à vous. J'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux.